Europe 1, en balade avec Alexandre Tarot. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche et bonne année. C'est un pianiste qui nous emmène en balade avec lui aujourd'hui, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'Alexandre Tarot, l'un de nos plus grands solistes, qui vient de sortir un nouvel album, Versailles. Toujours entre deux avions, entre deux concerts au bout du monde, Alexandre Tarot nous a donné rendez-vous dans le parc de la Villette, à côté de la Philharmonie de Paris, où il a ses habitudes.
Frédéric Taddeï, en balade avec Alexandre Tarot sur Europe 1.
Bonjour Alexandre Tarot.
Bonjour.
C'est une très belle journée ensoleillée.
Oui.
Nous sommes devant le Zénith, une salle de concert de 6000 places où il y a en ce moment Disney sur glace. On est très très loin de votre monde là. Enfin pas si loin puisque la Philharmonie n'est pas très loin. Mais le Zénith, c'est ici on entendra plutôt Liam Gallagher, Thérapie Taxi, Jean-Louis Aubert, Philippe Catherine ou Vanessa Paradis.
Oui mais c'est pas très éloigné. C'est une salle de spectacle. Une salle de spectacle qui s'est faite avec quelques bouts de plastique ou du caoutchouc. Je ne sais pas, c'est un énorme ballon gonflable. Là, qui,
ça ressemble à ça. Au début, ça devait être démonté au bout de 3 ans. D'ailleurs, ça a été inauguré en 1982 ou 1983, ouais. Je ne sais plus.
On a vu ça, je me souviens, parce que j'étais adolescent et on passait sur le périphérique. On s'est dit, mais c'est incroyable, cette salle de spectacle. Je pense que c'était la salle de spectacle qui était sorti de terre le plus rapidement quoi, ouais, de l'histoire de France.
Et qui devait y retourner d'ailleurs. Et puis ça a eu tellement de succès qu'ils en ont fait 16 dans toute la France maintenant, des zéniths.
Ce que j'aime dans cette salle, vous voyez, c'est qu'au fond, il suffit de mettre 4 murs, une scène, des sièges, même si ce sont des sièges en plastique et que ce n'est pas très confortable. Et le spectacle commence. On fait rêver les gens. On vit de belles choses. J'ai vu des spectacles extraordinaires dans cette salle.
Vous n'avez pas vu Barbara qui avait créé Lily Passion avec Gérard Depardieu ici. Vous avez consacré un album à Barbara.
Oui, c'est vraiment une grande... une idole pour moi. Et je n'ai pas vu Lily Passion. J'aurais bien aimé parce que c'était fou. Surtout la première. Hein. Je crois que tout le gouvernement Mitterrand était là au premier rang du balcon, on va dire ça. Et puis, c'était en même temps un raté parce que je crois qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans cette première. Et ça a été une aventure extraordinaire. La critique a été mauvaise, mais le public a suivi l'aventure, notamment en tournée. Et c'était une des plus belles expériences de Barbara.
Ça vous plairait de jouer dans une salle comme celle-ci ?
Alors, j'y ai joué.
Vous y avez joué ? Du piano ?
Alors, oui. Alors, j'ai joué du piano.
6000 places
dans
ici.
Les deux... Oui, ben, j'en étais pas venu pour moi. Je devais avoir 15 ans, 16 ans. Et j'ai joué pour Michel Drucker, une fausse émission. Alors c'est loin dans ma mémoire, c'était pour Peugeot. Peugeot avait sorti une nouvelle voiture, je ne sais pas laquelle, et je ne sais pas comment je suis arrivé là, mais ils avaient demandé, ils s'étaient offert une émission de Michel Drucker. Et dans cette émission, il y avait toutes les caméras et tout, je ne sais pas qui a vu cette émission, mais la salle était pleine, et j'ai joué du Scriabine. Je me souviens, après le tournage, on s'était retrouvé avec Michel derrière, il y avait une sorte de restaurant, de catering, comme on appelle ça, le restaurant pour toute l'équipe, et on avait pas mal parlé. Et il m'avait plu. C'était notre premier contact. Depuis, il m'a souvent invité dans ses vraies émissions. Et on avait parlé plein de choses. Et c'est quelqu'un qui m'avait, dès ce jour-là, touché. C'est quelqu'un qui est un grand amateur de musique classique. Son père écoutait le grand violoniste russe Heifetz. Et il est né entouré de musique classique, Michel Drucker.
Drôle. Et il a passé son temps à écouter de la variété depuis. Enfin,
oui, et pas que, parce que c'est un des seuls présentateurs de télévision à avoir invité des musiciens classiques à l'heure de grande
après
écoute.
Après Jacques Chancel, ouais.
Oui, absolument.
Et moi, quand même.
Et vous, absolument. Et je suis venu dans vos émissions.
Mais est-ce que vous êtes jaloux du retentissement de la musique des artistes qui se produisent ici, du rock, de la variété. Je sais pas, Renaud, quand il se produit ici, c'est pendant 2 mois, il est vu et entendu par 180 000 personnes. Ça vous fait envie, ce genre de choses ?
Toucher un public plus large, oui, mais je me vois pas jouer les variations Goldberg 30 soirs de suite, c'est impossible. Vous voyez, on a besoin
Les variations Goldberg, vous les jouez toutes à la suite et c'est le même texte décliné de différentes façons.
Alors, non, voilà, c'est un autre métier, une autre vie, hein. Un autre rapport au public aussi. On a besoin de silence, on a besoin de s'enfermer, de se cacher. On peut pas jouer tous les soirs dans une salle de 6000 places, c'est impossible.
Frédéric Taddeï se balade avec Alexandre Tarot sur Europe 1.
À votre disposition, vous avez 4 siècles de musique,
ouais, hein,
de la musique baroque à, au compositeur contemporain ou à Barbara. Ça fait plus de 4 siècles. C'est extraordinaire. Et en même temps, ça doit être, on se dit, mais je peux enregistrer un millième de.
Oui, et même déchiffrer que le millième de ce, ouais, que l'on peut, de ce que nous ont offert tous ces compositeurs, la musique pour clavier. En plus, moi, je joue de la musique pour clavecin, c'est ça mon dernier disque. Hein. C'est, ouais, Versailles, c'est la musique de l'époque de Versailles, sous Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. De la musique qui a été écrite pour le clavecin et pour cause, le piano n'existait pas. Donc j'en rajoute en plus. Et c'est vrai que la vie avance vite et je sais pertinemment que je n'aurai pas le temps de jouer, encore moins d'enregistrer. Toutes les œuvres qui me tiennent à cœur.
Il y a beaucoup de gens autour de nous qui se pressent, ils vont aller voir Disney sur glace, oui, je crois. Hein, c'est le spectacle qui est à l'affiche actuellement. Vous aimez le patinage artistique, Alexandre Tarot ?
Je ne sais pas, je regardais ça. Oui, j'aimais ça quand j'étais enfant, quand on avait une petite télévision. On regardait ça le soir, mais sans plus.
Vous avez dit, ma génération de musiciens classiques est orpheline. Vous vouliez dire par là que vous n'aviez plus aucun lien avec les inventeurs de la musique que vous jouez, ce qui n'était pas le cas de vos prédécesseurs. Arthur Rubinstein était encore proche,
c'est ça,
de Rachmaninoff ou Alfred Cortot.
Oui, Alfred Cortot, il avait travaillé avec un élève de Chopin. Donc vous voyez, le cordon ombilical était encore là, on ne l'avait pas coupé. Mais maintenant, nous, on doit inventer autre chose. On n'est plus les enfants d'eux.
Et en même temps, vous êtes toujours à la recherche, au fond, de l'interprétation idéale, celle qu'aurait voulu entendre le compositeur.
On en est très éloigné, parce que les instruments ont changé. Vous-même, vous avez changé nos oreilles, nos physiques, notre rapport au bruit, à la musique a changé. Donc, on ne peut pas reproduire une interprétation qu'aurait voulu le compositeur. Et d'ailleurs, à quoi ça sert? Et un compositeur, j'en connais beaucoup, des compositeurs vivants.
Ouais.
Ils ont 40 ans, ils veulent telle interprétation. 5 ans plus tard, ils en veulent une autre. Enfin, eux aussi bougent. Mais je crois que ce qu'on recherche, c'est être le témoin de notre temps. C'est-à-dire l'interprétation de ce que l'on est là, en ce moment, ce jour-là, à tel endroit.
Y compris quand on joue du Chopin ou du Schubert.
Mais oui, quand vous écoutez un disque de Chopin ou de Schubert, vous entendez autant. Alors un disque des années 50, vous allez entendre autant les années 50 que les années 1820, s'il s'agit de Chopin. C'est comme regarder un film de KPDP, vous voyez des mousquetaires, mais c'est un film des années 70, vous voyez plus ou presque plus les années 70 que les années que l'histoire est censée représenter.
Oui, sans aucun doute. On va se balader dans ce grand parc de la Villette qui nous tend les bras. On s'y retrouve dans un instant avec Alexandre Tarot.
Frédéric Taddeï, en balade avec Alexandre Tarot sur Europe 1.
Nous sommes en balade avec le pianiste Alexandre Tarot qui sort un nouvel album, Versailles, consacré à la musique française. J'ai l'impression d'ailleurs que vous êtes le pianiste qui a le plus enregistré de musique française. Je parle du pianiste classique, bien entendu.
Peut-être pas, parce qu'on est nombreux, vous savez. Mais j'ai enregistré en effet beaucoup de musique française.
Ouais.
J'ai commencé à enregistrer très tôt, à 19 ans, j'ai fait mon premier disque. C'était beaucoup trop tôt, et ça y a un disque tout à fait inintéressant. Mais j'ai continué sur ma lancée, parce que.
Et c'est votre disque consacré à Rameau qui vous a lancé internationalement.
Oui.
Vous aviez fait au moins 15 disques avant.
Voilà, des disques qui n'avaient pas beaucoup de réponses, mais j'aimais ça. Hein, s'enfermer à double tour loin du monde et enregistrer, aller loin dans l'interprétation d'une œuvre. Vous savez, c'est toute une vie en soi, hein, d'être comme ça pendant quelques jours dans un studio d'enregistrement. C'est inhumain d'une certaine manière, parce que vous ne pouvez pas être inspiré en jouant, en étant au piano toute la journée. Enfin, c'est fou. Et en même temps, ça vous fait avancer. J'ai l'impression que chaque enregistrement était une étape importante dans ma vie. Alors maintenant, il y en a beaucoup, mais je ne les regrette pas pour autant.
On croise la police montée, un policier, une policière à cheval, sur les pavés.
Les pauvres chevaux, il y a quelques années, ils auraient été tués ici.
Oui, c'est vrai qu'on est dans le parc de la Villette, qui est le plus grand espace vert de Paris. Hein. Mais c'est autrefois, ici se dressaient les abattoirs de la Villette, construits sous Napoléon III. C'est sous Valéry Giscard d'Estaing qu'on a décidé d'en faire un parc, il est ouvert jour et nuit, il n'y a pas d'enclos, pas de grilles. Il vous arrive de venir vous promener ici la nuit ?
Oui, mais vous avez vu qu'autour du Zénith, il y a plein de grilles quand même. Je trouve qu'il y a trop de grilles. Il y a trop de grilles dans les parcs. Les mais parcs étaient beaucoup plus ouverts dans Paris avant. Mais
ici, c'est le cas. Là, vous avez vu les grilles uniquement du Zénith. C'est parce que le public du rock, en général, le public du rock, on le traite comme autrefois, on traitait les bovins ici du temps des abattoirs. On les parque, on les fait patienter sous le soleil, on les fait rentrer dans une salle où il n'y a même pas de siège.
Alors que dans la musique classique, on leur donne des sièges très confortables.
Voilà. Et ils ne s'endorment jamais ?
Ah ben si, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Vous ne le savez pas, vous êtes de profil.
Bah, ça dépend s'ils ronflent. Je me souviens d'un concert, mais j'étais vraiment jeune. C'était l'une de mes premières tournées au Japon. Et j'avais joué à Sapporo, dans le nord du Japon. C'était une salle qui était quasiment vide, parce que personne ne me connaissait. Et que voilà, c'était le début. Et je rentre, je me souviens parce qu'il fallait que j'enlève mes chaussures, même dans les coulisses.
Ah oui, à la japonaise ?
Ouais. Et donc, je rentre sur scène et je joue à Les Miroirs de Ravel. Les Miroirs de Ravel, ça dure une demi-heure. Et je commence à jouer. Et un homme assis dans la partie droite du parterre de la salle. Donc, vous savez qu'en général, quand une salle est vide, les quelques personnes qui sont là sont sur la gauche parce qu'elles veulent voir les mains. Et lui
alors
était
on voit
donc
les mains que de la gauche.
Ben oui, enfin face et un peu gauche, sinon la carapace du piano vous cache vos mains. Et donc, il y avait un seul homme assez gras dans la partie droite de la salle. Et il commence à ronfler. Mais dès la première pièce, il y a 5 mouvements. Comme je vous l'ai dit, ça dure une demi-heure. Et donc, au Japon, personne n'irait se lever pendant un concert. Vous n'entendez rien. En plus, c'était très impressionnant parce qu'en général, dans une salle de concert au Japon, on n'entend pas voler une mouche. Et lui a ronflé. Et tout d'un coup, ça s'arrêtait et puis il reprenait. C'était un de mes pires cauchemars. 20 ans après, on en rit.
J'y pense encore.
Oui, j'y pense encore, la preuve.
Bah, je suppose que ça fait partie des avanies qu'il faut avoir traversées au moins une fois, non ? Voilà, dans une carrière de soliste.
Ça nous permet de raconter des histoires.
Vous êtes connu pour être sans doute le seul musicien virtuose qui n'a pas de piano chez lui.
D'autres pianistes, on fait ce choix-là pour éviter d'être écrasé par cet instrument qui pèse si lourd.
Bah c'est surtout pour ne pas rapporter de travail à la maison, j'imagine.
Oui, et puis on travaille bien sans piano aussi. Vous savez qu'on a besoin aussi de travailler dans la tête.
Vous êtes capable de faire vos gammes ou de jouer un morceau comme ça, sans instrument, avec les doigts ?
On peut travailler sur une table. Ouais. C'est un très bon exercice. On le fait rarement parce que c'est très laborieux, mais c'est possible.
Europe 1, en balade avec Alexandre Tarot. Frédéric Taddeï.
On marche sur les pavés. Derrière la grande halle, là où se dressait la foire aux bestiaux. C'était là que se négociaient tous les jours 4000 ou 5000 bœufs qui ensuite étaient envoyés à l'abattoir. On a fait un endroit très gai d'un endroit qui autrefois était quand même sinistre.
Tant mieux. Je trouve que c'est beau de créer des salles de spectacle sur un lieu qu'a tué.
Je dis que c'était ici qu'étaient les abattoirs. Je fais allusion à la salle de concert, là où j'avais vu les Rolling Stones d'ailleurs, David Bowie. C'était avant le Zénith, c'était là qu'avaient lieu les grands concerts de rock. Vous écoutiez du rock, vous ?
Pas du tout.
Jamais.
Et voyez, on se dirige vers le conservatoire, parce que dans ce parc de la Villette, il y a beaucoup de lieux comme ça, de culture. Et le Conservatoire National, dans lequel je n'ai pas... qui est juste là, au bout, dans lequel je n'ai pas étudié. Enfin, j'ai étudié au Conservatoire National, mais à mon époque, il était rue de Madrid, dans le 8e arrondissement. Mais j'ai vécu son déménagement, qui est un choc pour beaucoup des professeurs et des élèves.
On va aller le voir. Mais parlons un peu du son. Là, vous venez d'enregistrer votre album Versailles. J'imagine, connaissant votre méticulosité, à quel point vous avez dû travailler sur ce son. L'idée que la plupart des gens vont l'écouter ensuite sur des plateformes de streaming, qu'est-ce que ça vous fait ? Le son n'est pas tout à fait le même.
Non, c'est un son pauvre. C'est un son pauvre et je parle souvent avec des jeunes qui ne connaissent que ce son-là. Et quand ils arrivent à leur premier concert non amplifié, concert classique, ils sont... c'est une grande découverte pour eux. C'est magique, ils entendent un son plus riche, un son qui se déploie, un son...
Mais c'est bizarre parce que dans les années 70, avec la hi-fi, la haute fidélité, on était arrivé à un son qui était presque irréel, qui était de meilleure qualité que ce que l'on entendait en concert, notamment pour le classique. Les gens avaient des chaînes hi-fi extrêmement élaborées et en fait, on a vécu une régression depuis.
Régression, mais en même temps, vous pouvez écouter des CD aujourd'hui. Vous avez un son très très bon. Ce qui est amusant, c'est que le public est souvent habitué à une sorte de son et une forme de perfection, parce que les disques sont aujourd'hui extrêmement montés, mixés, retravaillés. Et quand les gens arrivent au concert, ben, ils peuvent être déconcertés parce qu'il y a là quelque chose de plus humain, un artiste qui a des failles, qui peut faire des fausses notes ou qui a des fragilités. C'est tout ce qui fait la saveur
du spectacle vivant, spectacle, au fond. Oui. On se retrouve dans un instant avec Alexandre Tarot. On vient de découvrir qu'il y avait juste devant nous une sorte de grand 8. On entend des cris, on va se rapprocher. Nous sommes avec Alexandre Tarot en train de contourner la petite fête foraine qui s'est installée là, devant la grande halle de la Villette. Vous aimez les fêtes foraines, Alexandre Tarot ?
J'adore ça. Je trouve ça en même temps assez tragique.
Triste, vous voulez dire, mélancolique.
Ouais, ouais, tragique dans le sens où on y voit des monstres, on a peur.
Peur de quoi ?
Bah, les trains fantômes, les trucs comme ça.
C'est ça que vous trouvez triste ?
Non, tragique. Ouais. Ce qui est triste, c'est les lumières, il y a quelque chose. C'est la fête, un peu. C'est le cirque, les fêtes foraines, les kermesses.
C'est vrai qu'on ça trouve ça toujours mélancolique aujourd'hui, alors qu'autrefois, c'était le lieu de divertissement par excellence.
Mais on s'y divertit beaucoup.
Encore aujourd'hui.
Oui, je trouve drôle que cette fête foraine soit entre la salle Boulez, le conservatoire de Paris, la grande halle et la cité de la musique. C'est assez savoureux.
C'est au 19e siècle qu'on a commencé à jouer les compositeurs morts. On ne l'imagine pas, mais c'est vrai que, je sais pas, Chopin, il jouait Couperin et Bach en concert.
Oui.
Avant cela, on n'en aurait pas eu l'idée.
C'est surtout. Oui, alors là,
du
on parle.
Du baroque, du temps de Versailles, on ne jouait pas les compositeurs morts.
On pouvait. Mais il n'y avait pas de droit d'auteur à l'époque. On reprenait des compositeurs, on reprenait leurs œuvres à notre compte. Beaucoup de compositeurs ont transcrit des œuvres, par exemple de Lully, en oubliant de marquer le nom de Lully sur la partition. On reprenait, on mixait, on ajoutait des choses. Et même du temps de Chopin, Liszt, Thalberg, Czerny, tous ces grands compositeurs à Paris au début du 19e siècle étaient avant tout des improvisateurs. Donc des pianistes, improvisateurs, compositeurs, parfois même facteurs de piano, comme Hertz, qui était un type assez incroyable, qui fabriquait ses propres pianos. Et ces compositeurs, parfois, ils jouaient les œuvres de leurs amis, mais pareil, en y ajoutant beaucoup de choses, en improvisant beaucoup. Puis quand ces pianistes, qui étaient aussi des professeurs d'ailleurs, quand ils sont morts, ce sont leurs élèves. C'est mignon, là, les petits enfants qui jouent dans ces bulles.
Ils sont dans des bulles, ils flottent sur une piscine gonflable.
Mais au mois de janvier. Donc, les élèves de Chopin, Liszt, etc., sont devenus les interprètes. Et c'est là que la notion d'interprétation arrive. C'est vraiment dans la deuxième partie du 19e siècle. Et ils avaient des partitions, ils n'improvisaient plus. Et d'ailleurs, les pianistes aujourd'hui, puisque le métier n'a pas beaucoup changé, très peu d'entre nous sommes des improvisateurs.
Et ce sont les pianistes qui vont se tailler la part du lion à l'époque. Les grands solistes, Liszt, Chopin, qui sont des stars énormes en Europe. Hein.
Oui, jusque-là, dans les salles de concert, enfin, au départ, ce sont plutôt des salles d'opéra, c'est le chanteur qui donne des récitals, qui reçoit des fleurs, qui est au centre de la scène. Et puis, petit à petit, au début du 19e siècle, au cours des concerts, il y a des pièces instrumentales, sans le chanteur. Et puis, quelques pièces pour piano qui interviennent. Et apparemment, c'est Liszt qui, le premier, a dit « Le concert, c'est moi ». Il y a un peu Louis XIV, et qui a donné le premier récital de piano. Et à partir de là, on a tous suivi. On était très contents d'être seuls, en pleine lumière, au centre de la scène. Mais de là, de ces chanteurs qui nous ont précédés, et qui sont toujours là quand même, viennent beaucoup de choses. Par exemple, recevoir des fleurs à la fin du concert, c'est assez incongru. Ça vient des récitals de chanteurs de l'époque de Liszt.
Europe 1, 11h30, en balade avec Alexandre Tarot, Frédéric Taddeï.
On vous imagine toujours, en général, les musiciens classiques, mais vous en particulier, parce que vous avez peut-être l'air plus romantique, surtout maintenant que vous avez une barbe, Alexandre Tarot. Je vous imagine toujours vivre dans une sorte d'univers parallèle entre Rameau, Schubert et Satie.
Pourquoi est-ce parallèle ?
Je ne sais pas, je ne vous imagine pas dans le monde actuel. Mais j'ai sûrement tort.
Ah ben non, moi je m'imagine être dans le monde actuel ou alors je suis fou, je ne sais pas. Je trouve que beaucoup de pianistes sont dans leur bulle, là vraiment. Oui. Mais je ne crois pas, mais vous me faites peur.
Vous êtes sensible à la musicalité d'un endroit comme celui-ci, par exemple ?
Ah oui.
Pour vous, c'est
tout
musical.
Tout m'interpelle, absolument. Tout univers sonore me parle. J'ai du mal à m'en déconnecter, justement. Même dans un avion qui décolle, j'entends les notes du moteur, les harmonies, s'il y en a, alors que la plupart des gens n'écoutent pas, entendent, mais n'écoutent pas.
Quand je vous ai vu apparaître dans le film de Michael Haneke avec Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva dans Amour, qui avait eu la Palme d'Or à Cannes, que je me suis dit, au fond, je ne vous connaissais pas encore à l'époque, je me suis dit, au fond, il est bien réel, il habite bien là, il est bien parmi nous.
C'est drôle parce que là c'était dans un film. Donc
oui,
c'est tout ce
mais c'était dans un film où tout à coup vous n'étiez pas en smoking, vous n'étiez pas en.
Ah oui, voilà. Je comprends. Ben oui, on est des êtres normaux, on ne met pas un smoking du matin au soir.
Et vous étiez allé à Cannes d'ailleurs, on parle de
oui,
smoking.
Oui.
Vous étiez
en
là...
touriste, c'était assez amusant.
Vous aviez monté les marches.
J'ai monté les marches avec Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, c'était très, très drôle. Je savais que cette expérience serait probablement unique dans ma vie, alors j'en ai profité au maximum pendant 2-3 jours et puis je suis retourné calmement à mon vrai métier.
Vous jouiez dans ce film, vous étiez aussi l'interprète de la bande originale.
Oui.
Vous y jouiez notamment l'impromptu numéro 3 en sol bémol de majeur de Schubert. Un morceau que j'aime beaucoup, vous aussi j'imagine. C'est vous qui l'aviez choisi?
Oui, c'est Michael. Et quand je l'ai enregistré, c'était à l'IRCAM. Vous voyez le studio qui est sous le centre Pompidou, dans le centre de Paris. Ça fait du bruit, c'est...
Oui,
c'est manège.
C'est la fête foraine.
C'est la fête foraine. Et donc j'avais enregistré là, il m'avait dit, mais je passerai certainement. Je me suis dit, oh là là, s'il commence à passer, il va donner son avis sur tout. Et j'ai commencé à enregistrer, notamment cet impromptu de Schubert, et tout d'un coup il est arrivé et il m'a dit que ça n'allait pas du tout. J'avais envie de me dire, mais attendez, le musicien c'est pas vous. Il joue lui-même du piano, sa mère jouait beaucoup de piano, voilà. Donc et puis il avait un enregistrement en tête qui était celui de Radulupu, avec un tempo en tête, un son en tête, et il voulait reproduire ça. Et j'ai compris vite que je pouvais pas me battre contre, et puis que c'était pour son film. Et je lui ai dit, écoutez, je réenregistre tout, je vais faire ça comme vous le voulez. Et c'est la seule fois dans ma vie jusqu'à présent où j'ai enregistré avec, sous la direction artistique, une direction opposée, presque opposée à la mienne, une direction artistique de quelqu'un qui n'est pas musicien de métier. Et donc je suis allé vraiment, et c'était très intéressant. C'est très intéressant de jouer beaucoup plus lentement avec un son.
On va l'écouter.
Si vous voulez.
Frédéric Taddeï se balade avec Alexandre Tarot sur Europe 1.
C'était Alexandre Tarot qui interprétait l'impromptu numéro 3 en sol bémol majeur de Schubert à la manière que souhaitait Michael Haneke. Est-ce que vous réécoutez vos disques ensuite?
Non. Non, non. C'est assez pénible de les réécouter. Pendant tout le processus de montage, alors là je suis à presque 24 heures sur 24 avec, je le suis, parfois le montage peut prendre 6 mois. Attention, le montage, c'est pas forcément coupé. Hein. C'est aussi le mixage, le son, c'est beaucoup de choses. Et une fois qu'il sort, une fois que je l'ai dans la main, qu'il est concret, que c'est un objet, ben je l'abandonne. Hein. Il vous appartient, vous en faites ce que vous voulez.
Se dresse devant nous le Conservatoire de Paris, le Conservatoire National de la Musique et de la Danse. On va s'approcher. Vous avez été élève de ce conservatoire, même si ça n'était pas ici, à l'époque.
Frédéric Taddeï, en balade avec Alexandre Tarot sur Europe 1.
On est devant le Conservatoire de Paris, le Conservatoire National de la Musique et de la Danse. Il a été fondé en 1795 et il est là depuis 1990. C'était François Mitterrand et Jack Lang qui voulaient ajouter au projet du Parc de la Villette de Valéry-Giscard d'Estaing le projet de faire la Cité de la Musique afin de rééquilibrer l'Est de Paris en bâtiment de prestige. Vous n'avez pas été élève ici, mais vous étiez élève du conservatoire qui se trouvait rue de Madrid.
Rue de Madrid, au métro Rome.
Ouais. Il y avait Renaud et Gauthier Capuçon, il y avait Nicolas Anglish, David Frey, Bertrand Chabailleux, Emmanuel Haïm, Patricia Petitbon, tout le monde.
Oui. Ben, on s'est tous connus et le conservatoire. Oui, quasiment tous les musiciens français qui font une carrière aujourd'hui sont passés par le Conservatoire National.
Et vous étiez tous dans les mêmes classes ou
Non, et à mon époque, d'une classe à l'autre, c'est pas qu'on se parlait pas, mais je me souviens, j'avais voulu aller écouter la classe, le cours à côté, c'était Yvonne Loriot, la femme de Messiaen, qui était professeur de piano, comme Madame Mounier, mon professeur de piano. Et leur salle se jouxtait. Elle s'aimait pas trop. Je crois que Germaine Mounier avait été son assistante bien auparavant. Mais après, voilà, il y avait un peu, c'était pas très facile entre elles deux. Et j'avais voulu rentrer dans la salle puisque tous ses élèves étaient là et l'écoutaient. Et on m'avait fermé la porte au nez. Je me souviens de ça parce que j'avais trouvé ça fou. Et le conservatoire à cette époque était très, très cadré, très, très dur même. C'était des années dures parce qu'on pouvait pas s'épanouir.
Vous disiez que vous aviez participé au déménagement ici, vous y aviez participé?
Oui, c'est ça. Non, je n'ai pas déménagé les pianos, mais je suis sorti du conservatoire l'année du déménagement.
D'accord.
Voilà, je me souviens de certains professeurs en pleuraient parce que pour eux, c'était toute leur vie. Et ils ont laissé ce vieux conservatoire qui était en plein centre de Paris. Et ils avaient leurs habitudes. Pour certains d'entre eux avaient déménagé, avaient leur appartement dans les rues adjacentes. Et donc, ils ne vivaient que pour et par le conservatoire de Paris.
C'est comme le déménagement du 36 Quai des Orfèvres.
Exact.
Quand
voilà.
Ils ont dû se retrouver près du
périphérique. Mais maintenant, le conservatoire de Paris est bel et bien à la porte de Pantin et tout le monde s'y est habitué. Les luthiers, par exemple, se sont installés ici dans le quartier.
Vous aviez reçu le premier prix de piano au conservatoire, vous aviez 17 ans. Est-ce que depuis, vous allez voir les autres, c'est-à-dire les Capuçon, plus particulièrement les pianistes?
Oui, oui. C'est toujours très intéressant d'entendre les autres.
Ouais.
C'est toujours très intéressant d'entendre les autres, quel que soit leur niveau d'ailleurs. Vous pouvez aller écouter un grand pianiste comme Nelson Frère, je ne sais pas, Martha Argerich, Paulini, et apprendre évidemment beaucoup de choses. Mais vous allez écouter un jeune de 17-18 ans, ça vous fait beaucoup de bien aussi. C'est toujours une leçon d'aller au concert. Malheureusement, on n'a pas beaucoup le temps, on est toujours en déplacement. Et quand on est à Paris, je dis en général, nous les solistes, quand on est à Paris, c'est pour quelques jours et on a peut-être d'autres priorités que d'aller à nouveau dans une salle de concert.
Mais je me suis toujours demandé qu'est-ce qui pouvait pousser un petit garçon de 4 ou 5 ans, comme c'était votre cas quand vous avez commencé le piano. Vous êtes rentré au conservatoire d'abord dans le 14e. Qu'est-ce qui vous poussait à aller au cours, à travailler votre piano? On a tellement de choses pour ne plus
tout m'y poussait, mais je ne travaillais pas, j'étais extrêmement paresseux. Ah oui, je ne voulais pas être pianiste parce que je savais qu'il fallait travailler 6-7 heures par jour. Et c'était vraiment le pire de ce que je pouvais imaginer pour ma vie.
Vous avez dû vous priver de beaucoup de choses en étant enfant et adolescent.
Mais non, je ne travaillais pas, donc je me privais de rien. Adolescent, oui, au conservatoire, là, il a fallu vraiment travailler. Et j'ai commencé à prendre du plaisir à travailler. Mais avant de rentrer au Conservatoire National, donc jusqu'à 14 ans, je foutais rien et j'étais très heureux comme ça. J'avais dit à mes parents que je voulais faire de la trompette parce que j'avais entendu quelque part que la trompette, on pouvait, à cause des lèvres, on ne pouvait pas travailler plus que 2 heures par jour. Et voilà. 40 ans après, je suis pianiste.
Europe 1, en balade avec Alexandre Tarot. Frédéric Taddeï.
Est-ce que vous écoutez les jazzmen, Thelonious Monk, Errol Garner, voilà des pianistes que vous ne pourrez jamais imiter, mais j'imagine qu'ils ne peuvent
personne
pas non plus
jouer. Personne ne peut imiter un pianiste de jazz comme eux. Mais on parlait tout à l'heure des pianistes improvisateurs qui étaient Liszt, Chopin et compagnie au début du 19e siècle à Paris. Mais c'est vrai que je trouve ça assez triste qu'aujourd'hui, nous pianistes, même si j'improvise un peu, mais on est quand même de piètres improvisateurs. Et donc de piètre imitateur.
Et donc ça doit vous fasciner quand vous entendez un pianiste de jazz.
Oui, je suis envieux. J'aimerais avoir cette facilité, cette liberté surtout. Nous, on est attachés au texte.
Et alors moi, sans doute parce que je suis un profane, je suis pas un grand mélomane, j'ai beaucoup plus de mal à reconnaître, à vous différencier, vous les pianistes classiques, entre vous, que les pianistes de jazz. Je peux reconnaître, je reconnaîtrai tout de suite Errol Garner et Thelonious Monk. Je suis pas sûr que
parce qu'ils jouent leur propre musique
aussi. Je vais faire la différence entre Alexandre Tarot et David Frey.
Ouais, mais ils jouent leur propre musique ou quand ils reprennent un thème, c'est dans leur propre style. Donc
voilà,
vous avez leur jeu,
style,
leur manière de jouer et en plus, et souvent une manière de jouer autodidacte, donc très particulière qui se reconnaît. Nous, on se reconnaît peut-être. Moi, c'est quand même assez facile. Je vous ferai un petit cours privé.
Non, mais je suis sûr que c'est une différence.
Vous écoutez un disque de Martha Argerich, vous le reconnaissez dans la seconde.
Oui, vous, c'est sûr.
Mais voilà, c'est, je vous dis, voilà, moi, je oui, pas... c'est une question d'habitude aussi.
Ouais. Mais qu'est-ce qui vous avait mis au piano au départ?
Mes parents. Ma mère était professeure de danse, elle avait été danseuse à l'opéra. Mon père était metteur en scène. Il avait été, dans le passé, baryton. Et donc, pour eux, c'était tout
choix,
à fait normal de nous mettre, ma sœur et moi, au piano. Alors, on s'est mis au piano et j'ai trouvé en cet instrument, dès les premières secondes, parce qu'il y a des photos qui prouvent que j'étais déjà au piano avant même mon premier cours, j'ai trouvé mon meilleur ami. Et c'est toujours mon meilleur ami. Je crois que le piano, c'est un instrument extraordinaire auquel vous pouvez vous confier, qui vous écoute, qui reste silencieux, c'est bien comme ami, et qui ne vous lâche pas et que vous ne lâchez pas tout au long de votre vie.
On continue notre balade avec Alexandre Tarot. On se dirige vers la Cité de la Musique. C'est juste à côté.
Frédéric Taddeï, en balade avec Alexandre Tarot sur Europe 1.
Nous longeons maintenant la Cité de la Musique, conçue par Christian de Portzamparc, avec une salle de concert, une médiathèque. Vous y avez joué ici aussi,
Mille fois.
Tarot.
C'est
Mille
vraiment.
Fois.
Ah oui, vraiment. L'ancienne, entre guillemets, partie de la Cité de la Musique et la Philharmonie qui est derrière.
Voilà, c'est Philharmonie 1 et Philharmonie 2,
oui,
dit-on.
Oui, oui. Mais c'est un lieu magnifique. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure quand on rentrera dans la Philharmonie.
Vous allez au concert, est-ce que vous achetez beaucoup de disques?
J'aime bien acheter des disques, oui. J'achète beaucoup de disques et je n'ai plus de place chez moi.
C'est vrai?
Oui, j'ai
pourtant,
beaucoup de disques.
Vous n'avez pas de piano?
Pas de piano, mais beaucoup de disques. Vous savez, des milliers de disques, ça peut prendre le même espace qu'un piano à queue.
Nous voilà à l'intérieur d'Harmonia Mundi, donc voilà, un vrai disquaire.
Harmonia Mundi, l'un des derniers disquaires, oui. Ouais. Et tout de suite, on change d'atmosphère. Hein. Ouais. En deux pas, on rentre dans un autre monde. Je trouve ça merveilleux, les disquaires.
Il fait chaud. Harmonia Mundi, il faut dire, c'est également une maison de disques. C'est...
Oui, où j'ai enregistré, je crois, 13 disques.
Ouais.
Maintenant, je suis chez Warner, c'est une autre maison de disques avec... d'autres préoccupations, une autre direction artistique, mais je garde un très beau souvenir de cette période. Et d'ailleurs, je sors là dans quelques jours un autre, on n'en a pas parlé, mais un disque avec Jean-Guyenne Queyras, le violoncelliste, puisque nous sommes dans deux maisons de disques différentes. On a demandé à nos maisons de disques respectives. Elles pouvaient se mettre d'accord. Donc, on a fait un disque ensemble, Brahms, il y a 2 ans, dans ma maison de disques. Et cette fois-ci, c'est un disque de bis qu'on a fait ensemble, qui s'appelle Complice, et qui sort dans quelques jours, mais pour Harmonia Mundi.
Alors ici, il y a à la fois des vinyles, des CD, il y a des livres aussi, il y a à peu près tout. Et puis, il y a vos disques. Là, je vois Alexandre Tarot, Beethoven, en vinyle.
En vinyle, c'est incroyable, parce que ouais. Quand j'ai commencé à enregistrer, c'était le début du CD.
Oui, et au moment où vous commencez votre carrière, c'est la fin du micro-sillon, le début voilà. Du CD.
Et je ne pouvais pas imaginer que 30 ans après, j'enregistrerais des vinyles. Quoi. C'est quelque chose de fou.
Qu'est-ce que ça a changé, le fait d'enregistrer pour CD?
Le CD, ben, le format. On écoute différemment un disque s'il dure, parce qu'un vinyle c'est à peu près 40 minutes, 45 minutes. Un CD entre 60 et 80 minutes. Ça change tout. Hein. C'est plus proche du concert. Aussi peut-être que les gens s'ennuient plus facilement. On coupe le disque plus tôt. Il n'y a pas l'entracte qu'offrait le vinyle. Il fallait changer de face. Oui. Et donc il y avait ce geste de prendre très délicatement aussi, le disque était délicat. Il fallait faire très attention aussi aux petits diamants qui devaient...
Et c'est vrai qu'avec le CD arrive le règne de la télécommande, on peut changer de morceau quand on veut, avant, oui. Après...
Oui, ça,
réécouter trois fois le même.
Plus vite, tout allait plus vite. Même la galette qui tout d'un coup se mettait à galoper. Je me souviens quand j'ai eu mon premier lecteur de CD... J'ai vu le disque aller à tout à l'heure, je me suis dit, mais il y a un problème, il est déjà cassé, j'ai crié. En fait, non, c'était comme ça.
Là, je vois qu'il y a carrément un bac qui vous est consacré, enfin même un présentoir. Il y a tous vos livres, il y a vos disques. Piano intime, c'était vos conversations avec Nicolas Souton. Il y a Montrez-moi vos mains qui est maintenant en poche chez Point. Et puis, il y a évidemment Versailles, il y a Autographe, il y a la bande originale d'Amour, il y a Tarot Plays Rachmaninoff. Est-ce que vous allez toujours voir dans les maisons de quand vous êtes chez un disquaire, vous allez toujours voir si vos disques sont bien là?
Non, mais quand j'étais jeune, mes premiers disques, je les ai enregistrés à 19-20 ans. Et j'allais dans toutes les Fnac de Paris, il y en avait beaucoup à l'époque. Et pas dans toutes les Fnac, mais dans certaines. Et je prenais le seul exemplaire de mon disque qui existait, je le mettais devant la pile. Pour m'assurer que quelqu'un le voit et peut-être l'achète.
Et ça marchait ?
Je ne sais pas. Je ne suis pas caché derrière une colonne pour vérifier.
Quand le CD disparaîtra, à votre avis, qu'est-ce qui va le remplacer ? Est-ce qu'il y aura un nouveau support ou est-ce que tout simplement la musique se dématérialisera totalement et on écoutera de la musique sur ordinateur directement, alors peut-être de meilleure qualité que celle d'aujourd'hui en matière de son, mais bon, il n'y aura plus de support, quoi.
Je pense qu'on a besoin du support. En fait, je pense qu'on a une vraie relation qui s'installe entre l'objet et nous. Et je suis sûr, à l'instar de ce qui se passe avec le livre... qui devait se dématérialiser totalement et en fait on se rend compte qu'il y a un regain d'intérêt pour le livre papier. Je pense que le disque va continuer à vivre encore un temps, même s'il est mourant, il va mettre plus de temps, tel une soprano à la fin d'un opéra de Puccini, il va mettre très longtemps à mourir. Et puis, il va peut-être être remplacé, mais par d'autres objets. J'en suis persuadé. En tout cas, je plaide pour une offre d'une multitude de supports différents. Vous voyez, on peut imaginer des disques, livres, qui existent déjà d'ailleurs, mais il faut prendre les bonnes choses hein, dans ce qui nous arrive. Et je crois qu'à l'avenir, on peut créer de nouveaux supports d'écoute de musique.
Vous disiez que vous aviez enregistré votre premier disque à 19 ans, ça paraît très jeune, mais il faut se souvenir que Chopin, lui, était déjà célèbre à 8 ans, hein, dans sa vie, au fond.
Oh, il n'était pas vraiment célèbre.
Ah, si, on parlait de lui dans le journal.
Hein. Ouais,
Varsovie, oui, à 8 ans, on parle de lui dans le journal. Non, enfin, bon, c'était un pianiste virtuose, il a fait une carrière de concertiste exceptionnelle ensuite, mais il était célèbre très jeune. Mozart, n'en parlons pas. Au fond, ils étaient plus précoces, hein, jadis.
Mais les vies étaient plus courtes aussi. Tout ce qu'a fait Chopin en si peu d'années.
Ouais.
Et Mozart, tous les opéras, ouais. Tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a vécu, les déménagements. Rendez-vous compte, Chopin a eu 9 appartements à Paris. juste dans le 9e arrondissement, là autour de Notre-Dame de Lorette, la Nouvelle Athènes, les grands boulevards. Il déménageait tous les deux mois. C'est quelque chose d'inimaginable aujourd'hui. Il y a des gens qui avaient une vie plus courte et très très remplie.
Chopin, pour moi, c'est vraiment la grande musique, mais pour la bourgeoisie, c'est très différent de la grande musique qu'on composait avant. Pour la noblesse ou pour l'église. Alors c'était à la fois moins religieux, moins guerrier, mais surtout plus intime.
Mais Chopin, contrairement à Mozart, il écrit plutôt pour, en effet, des bourgeois, pour des petits salons. Il n'écrit pas pour... enfin, pas toujours pour un prince ou un roi. Il écrit pour des salons, les salons Pleyel, rue Cadet. D'ailleurs, il n'aimait pas les salles de concert qui commençaient à se construire partout dans Paris. Il préférait les petites assemblées. Et c'est une musique plus intime, mais en effet destinée à un public bourgeois qu'étaient les mécènes et les princes et comtesses, certes, mais pas les gouvernants. Je veux dire les gouvernements, ceux qui nous gouvernent.
J'ai devant moi là, votre album consacré aux préludes de Chopin. On va entendre le prélude numéro 4, c'est un de mes préférés. Il l'avait composé à Majorque, hein, je crois, où il était avec George Sand. Mais on vous écoute l'interpréter, Alexandre Tarot. C'est Alexandre Tarot qui nous interprétait le prélude numéro 4 de Chopin. On va maintenant quitter ce disquaire Harmonia Mundi et on va se diriger tranquillement vers la Philharmonie.
Frédéric Taddeï, en balade avec Alexandre Tarot sur Europe 1.
Nous sommes ressortis de la Cité de la Musique et devant nous, il y a l'hôtel Mercure. Je me dis, c'est le genre d'hôtel dans lequel vous passez votre vie, Alexandre Tarot, parce que là, on vous a coincé entre deux avions ou entre deux trains, mais vous êtes toujours en voyage.
Toujours en voyage et donc toujours dans des lits différents, des hôtels différents. Au fond, j'ai envie de dire que c'est la même chambre partout.
Ah oui, rentrons dans l'hôtel Mercure, vous allez m'expliquer ça.
Oui, comment dire, la couleur change, la salle de bain change, le matelas, la qualité du matelas n'est pas tout à fait la même, mais au fond, quand on change d'hôtel tout le temps, on a l'impression de revenir dans un lieu qui est le même. Et c'est ça qui est important pour faire ce métier, c'est de garder les pieds sur terre, sur une terre qui n'est certes pas forcément la même, mais qui est la vôtre. Comme quand on rentre sur scène pour la répétition, on se met facilement en chaussettes pour avoir l'impression d'être chez soi. On est chez soi d'ailleurs, mais retrouvé chez soi. Et c'est pareil, quand on rentre dans un nouveau général, parce que c'est ce que ressentent tous les solistes, quand on rentre dans une chambre d'hôtel, on se met tout de suite en chaussettes, on met la télévision, les chaînes qu'on aime, on s'éloigne des petits-enfants qui crient, et on se retrouve chez soi. C'est ça le but. Ne pas être trop déconnecté. On vit en apesanteur. Faut pas se cogner au mur. Vous voyez, on se déplace, mais on ne voyage pas. J'ai la sensation d'être toujours dans la même chambre.
Et il paraît d'ailleurs que, mais je crois que c'est vous qui le racontiez dans votre livre Montrez-moi vos mains, que vous demandez toujours la chambre numéro 9.
Je ne demande pas, j'espère l'avoir. Oui,
ah oui,
c'est vrai qu'on,
il faut qu'il vous la donne.
Ou 27, ou 72, ou 63, enfin que
multiple
ce soit. Voilà, que ce soit un 9.
Et pourquoi?
Ben parce qu'on s'y sent bien dans une chambre 9.
Vous dormez mieux dans une chambre 9?
Je dors mieux dans une chambre 9 et beaucoup moins bien dans une chambre 4.
C'est drôle.
Oui, le 4, ça vous retarde. Voilà. Une chambre 5, c'est une chambre où je me sens plus nerveux. Ça vous fait rire, mais je vous assure, c'est vrai, c'est ce que je vis au quotidien. Le 5, c'est une chambre d'où je veux sortir au plus vite. Le 5, c'est bruyant, je sais pas, il y a un tramway, un train devant, je ne sais pas. Le 5, ça bouge. Le 4, ça arrête le temps, ça retarde les choses. Voilà, le 2 c'est pour faire l'amour, alors pourquoi pas une chambre 2. Une chambre 1, vous vous sentez un peu seul. Ouais.
Et vous intéressez vraiment à la numérologie ou c'est juste pour les chambres 2?
Ça me passionne,
ah,
non,
oui,
pour tout.
Ouais, pour tout. Donc calcule, les dates de concert
c'est... Oui, j'ai presque honte de vous le dire, mais bon. Oui, c'est vrai. Enfin, quand j'ai le choix d'une date, on me dit ça peut être le 2 octobre ou le 4, je dis attends une seconde, le 2.
Parce qu'on fera l'amour.
Peut-être. Mais une journée 2, c'est autre chose qu'une chambre 2. Mais on fera une émission spéciale là-dessus, si vous voulez.
Entière là-dessus. C'est quand même assez amusant. C'est de la superstition ou c'est vraiment.
Non, c'est vrai. Venez avec moi en tournée, vous verrez.
Ouais. Et vous jouez vraiment.
Et je ne demande pas des chambres neuves, elles arrivent toutes seules.
Mais là maintenant, les fans d'Alexandre Tarot vont se dire, il vaut mieux que j'aille le voir en concert à telle date qu'à telle autre, parce qu'il va jouer moins bien.
Il y a des surprises, Par exemple, une journée 4 où tout doit être un peu retardé, c'est un peu une journée 4, vous pouvez jouer du Beethoven, vous voyez, vous pouvez jouer un truc un peu carré, vous allez être plus stable. Donc, faut en jouer, faut faire avec ce que vous offrent les forces de la journée, les vents. Et s'ils sont contraires, ben faut jouer avec les contraires.
Vous partez chargé quand vous voyagez. Vous avez de la chance, vous n'avez pas besoin de porter votre instrument comme les violoncellistes. Néanmoins, vous avez de gros bagages parce que vous passez tellement votre temps en voyage. Je vous dis, comment faites-vous pour rendre tout cela agréable?
C'est agréable de voyager.
Oui, mais parfois ça peut devenir fastidieux. Moi, j'adore voyager.
Dans
mais
tout métier, il y a des choses. Non, il faut savoir alléger non seulement ses bagages, mais sa vie. Pour ce qui concerne mes bagages, j'ai un costume infroissable, extrêmement léger, dans une housse extrêmement légère, avec des chaussures extrêmement légères. J'emporte peu de choses, je me change tout de même. Ce qui pèse lourd, c'est les partitions.
Ah, les partitions.
Oui.
Ça, il va falloir en parler aussi.
Pourquoi ?
Bah, parce que il fut un temps où les solistes jouaient de mémoire.
Oui. Et ce temps n'est pas révolu. Je suis l'un des seuls.
Pour vous aussi.
Ouais.
Il paraît que vous avez eu des trous de mémoire.
Énorme, oui. Dès l'âge de 11 ans. Ouais. Et donc, à un moment donné, c'était à Buenos Aires, il y a maintenant une vingtaine d'années, j'ai eu tellement peur. Étonnamment, je n'avais pas de trous de mémoire ce soir-là, mais j'ai tellement pleuré avant et après le concert que j'ai décidé d'arrêter ce métier. C'est surtout le choc émotionnel, psychologique qu'il engendre. C'est ça le problème. C'est qu'après, on ne peut plus jouer cette même pièce sans être terrorisé à l'endroit même où on a eu un trou de mémoire. Donc oui, on improvise, on fait quelques accords, on essaye de se rétablir. Il y a plusieurs mémoires. On les fait jouer, entre guillemets, l'une après l'autre. La mémoire des réflexes. Ensuite, la mémoire visuelle de la partition. Si elle ne marche pas, ben on continue un peu à improviser. On essaye la mémoire des harmonies, de la science musicale, de la composition, les basses, la main gauche, comment ça fonctionne. Tiens, là, il y avait tel truc. Et puis, si aucune de ces mémoires ne marche, eh bien, vous arrêtez.
Eh bien, on va arrêter, mais juste le temps des informations. Alexandre Tarot, on se retrouve juste après. On va quitter l'hôtel Mercure et on va se diriger vers la Philharmonie.
Frédéric Taddeï, en balade avec Alexandre Tarot sur Europe 1. Europe 1, en balade avec Alexandre Tarot. Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec le pianiste Alexandre Tarot qui sort un nouvel album, Versailles, consacré à la musique française. Alexandre Tarot qui nous promène dans le parc de la Villette, dans la cité de la musique, et on se dirige maintenant vers la Philharmonie, un endroit où vous avez vos habitudes, comme on veut s'en apercevoir. Mais on était juste avant dans un hôtel qui ressemble un peu aux hôtels dans lesquels vous passez la majorité de votre temps. Pas que vous êtes insomniaque, c'est vrai?
Oui, alors je passe
même quand vous êtes
plus
dans une chambre numéro 9.
Oui, même dans une chambre numéro 9, j'ai du mal à dormir.
Oui, et vous regardez la télévision dans ces cas-là? Vous lisez ou...
C'est difficile de parler des insomnies. Être insomniaque, c'est vraiment...
C'est une maladie.
Ben, on ne veut pas en parler. On ne veut pas en parler. J'en parle parfois avec de vrais insomniaques comme moi et on se comprend, mais quand on en parle on a l'impression que le monde entier est contre nous, quoi, comme si personne ne pouvait comprendre ce que l'on endure. C'est vraiment une torture, le manque de sommeil. Et donc oui, en quelques mots, quand je ne dors pas, c'est-à-dire presque chaque nuit, je ne veux pas rester dans mon lit à essayer de dormir parce que ça ne sert à rien. Donc je travaille, je regarde la télévision, je regarde mon iPhone, je parle avec mes amis quand je suis, je sais pas, je joue en Chine, mais je peux appeler en pleine nuit mes amis en France.
Moi qui déteste dormir, mais qui ne suis pas insomniaque, j'ai toujours envié les insomniaques. Je me suis dit, c'est formidable.
Oh ben, y a rien à envier, je vous assure. Regardez comme le soleil brille sur cette carapace presque marine de la Philharmonie de Paris. C'est incroyable, cette architecture. C'est une salle qui ressemble à aucune autre. Pourtant, j'en ai fait beaucoup des salles. Mais là, le soleil d'hiver qui se reflète sur ces... C'est comme un poisson.
Oui, comme des écailles de poisson.
Des écailles de poisson.
Exactement.
Et c'est vraiment très beau.
Vous parlez beaucoup aux morts, Alexandre Tarot. Vous recueillez sur les tombes des grands interprètes du passé, des compositeurs aussi, j'imagine.
Et des gens, des inconnus. Quand j'étais jeune, on a commencé cette émission au Zénith. C'était une période quand le Zénith est sorti de terre et que je venais souvent... Et écouter des concerts, c'était une période, j'avais 15-16 ans et je marchais beaucoup dans Paris et j'aimais les cimetières. Donc je connaissais tous les cimetières de Paris, leurs recoins, les tombes, certaines tombes d'inconnus me plaisaient plus que d'autres et puis évidemment les tombes des personnalités, des gens célèbres.
Vos préférés ? En tant que tombe.
Beaucoup de tombes, à laquelle je rends visite encore presque chaque année, c'est celle d'Emmanuel Chabrier, ce grand compositeur de la fin du 19e siècle, compositeur français qui a une tombe au cimetière de Montparnasse, que personne ne va voir parce qu'en plus il a la malchance d'être dans une petite allée et c'est pas facile d'y accéder. Son buste en pierre blanche avec un peu de mousse, ça le rend verdâtre. C'est un buste magnifique et il a un petit rictus aux lèvres qui me fait penser qu'il rigole toujours. C'est un bon vivant. Je vais le voir systématiquement avant d'enregistrer un disque. Donc tous mes disques, la veille ou l'avant-veille, je vais le voir. Si j'ai pas le temps, c'est juste 5 minutes, mais on parle un peu.
Vous parlez d'égal à égal avec eux ?
Bah oui, oui, oui. Sinon,
Vous pourriez être
d'homme à homme, on va dire, parce que si vous mettez le compositeur à 1000 km au-dessus de votre tête et comme quelqu'un d'inatteignable, vous pouvez pas l'interpréter.
Frédéric Taddeï se balade avec Alexandre Tarot sur Europe 1.
Là, on arrive à l'entrée des artistes, 191 boulevard Serrurier.
C'est l'entrée des artistes de la Philharmonie.
Taxi,
donc, hein.
Bon courage pour arriver à cette adresse, se perdre toujours. C'est cette entrée qui...
Elle longe le périphérique.
Oui, alors c'est pas très drôle d'aller jouer du Mozart en passant par en longeant le périphérique. C'est jamais très agréable d'atteindre cette entrée des artistes. Mais une fois qu'on est dans la Philharmonie, on s'y sent bien. Quoique les couloirs backstage noirs qui ressemble plus à une morgue qu'à une salle de concert. C'est fou comme les architectes ne pensent pas aux artistes.
Ah oui ?
Ils pensent au public, ils font une très belle salle, ils pensent à eux surtout, mais ils ne pensent pas à ce qui se passe avant le concert. Et pourtant, le concert commence bien avant 20h. C'est comment un artiste peut se recueillir dans sa loge. S'il y a une fenêtre, c'est un petit peu mieux.
Là, on est à l'entrée des artistes de la Philharmonie. Vous avez suivi un peu l'affaire. Jean Nouvel, l'architecte, s'est vu notifier par la Philharmonie une pénalité de plus de 170 millions d'euros.
Ben oui.
Et lui-même a déposé plainte à son tour pour concussion et favoritisme contre la Philharmonie.
Je ne connais pas le dossier, donc je n'ai pas vraiment d'avis. Ça paraît fou. Ça paraît fou. Surtout quand tant de millions sont...
C'est la totalité du surcoût des travaux.
Mais vous voyez, là, on rentre dans l'entrée des artistes et les murs noirs ne font pas envie. Pourquoi mettre toujours... Vous allez me dire, c'est la couleur de Jean Nouvel, mais pourquoi obliger l'artiste et les gens qui travaillent ici tous les jours à vivre dans du noir et une obscurité ?
Ben, on se retrouve dans un instant dans les coulisses de la Philharmonie avec Alexandre Tarot.
Frédéric Taddeï, en balade avec Alexandre Tarot sur Europe 1.
Nous sommes parvenus au premier étage de la Philharmonie avec Alexandre Tarot devant le foyer des artistes. Et devant nous, il y a Emmanuel André. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Frédéric.
Présentez-nous Alexandre.
Emmanuel qui organise les concerts ici dans cette salle magnifique. Frédéric Taddeï.
Frédéric, moi c'est Emmanuel. on est en famille alors.
Vous êtes là depuis le début
hein? Je suis là même avant. Je suis là depuis 21 ans, vous imaginez.
Ah oui.
Alors que la Philharmonie n'était pas construite, mais avant, il y avait la Cité de la Musique. Et entre les deux, il y a eu la salle Pleyel. Donc c'était trois épisodes d'une longue histoire de famille. Mais la Philharmonie, bien sûr, là, c'est autre chose.
Maintenant. Et on a l'impression qu'il est chez lui, Alexandre Tarot, ici.
À force.
Oh, plus que ça. Je veux dire, tu fais partie des artistes et peut-être un des artistes qui se sent le plus dans un lieu où rien n'est prévu, c'est-à-dire où tout est à construire. Il y a des lieux où on arrive avec du préfabriqué, on s'installe et on repart. Ça ne passe pas comme ça chez nous et ça ne se passe pas comme ça, dans le sens où quand on travaille, quand on imagine un sujet, tu peux avoir un bout d'un rêve, on en parle ensuite, on lui donne une autre forme, on imagine avec qui le faire, et puis on se revoit, et puis on va dans le lieu, et puis on cherche les instruments, et en fait on fait du sur-mesure sans arrêt. Ce qui rend, je pense, le rêve plus stimulant.
Vous trouvez aussi ?
Oui, ben, un concert, ça commence avec... On parlait tout à l'heure du zénith, je vous disais, quatre murs, des sièges même en plastique, mais on fait un spectacle. Mais c'est ça, un concert, ça commence avec des murs. Avant les murs, il y a le désir de l'organisateur, de l'artiste. Ensuite, on va créer quelque chose dans ces murs avec cet instrument, à cette date-là, pour ce public-là, cette acoustique-là, et tout ça, on doit créer une cohérence. Et voilà, et nos désirs communs se retrouvent sur un terrain commun. C'est pas toujours ce que j'ai à proposer n'est pas forcément l'idéal pour cette salle. Et Emmanuel va me dire, mais oui, non, mais on pourrait aller dans cette direction-là. Et on crée quelque chose ensemble, en fait. C'est ça qui est intéressant.
On peut y aller dans la salle, elle est juste là, elle nous tend les bras, la magnifique salle de la Philharmonie.
Faites l'essai, par exemple, Frédéric. Imaginez-vous à la place d'Alexandre. Vous allez vous retrouver sur scène et vous allez avoir un rêve aussi. Probablement imaginer que ça peut sonner très bien comme ci, comme ça.
Vous allez lui proposer un récital de piano en trois soirées.
Bah, ou d'être récitant d'un programme.
On peut faire de la musique sans être musicien. On peut faire un succès commercial planétaire en ne jouant que d'une touche de piano. Vous avez dû entendre ça.
Peut-être plusieurs tout de même.
Non, David Guetta avec une seule touche de piano. Il a réussi.
Alors regardez, ça c'est ce que vous vivez là, c'est ce qu'on vit quand on donne un récital de piano, qu'on rentre dans la salle.
Voilà. On passe du bleu, backstage, à cette couleur. Comment tu la décrirais toi Alexandre ?
Un beige or, noir et blanc.
Oui.
Mais un blanc qui reste doux.
Oui, le fond est blanc, hein, assez laiteux. Et après ça ressemble à quoi ? Une ruche, à une...
Là, la salle est vide, mais quand elle est pleine, vous rentrez, vous êtes presque écrasé par ce public qui vous entoure, parce qu'il y a quasiment 500 personnes qui sont derrière la scène aussi, donc c'est comme un cirque.
Il y a 2000 places à peu près ?
2400. 2400. Et tu as raison de parler de cirque ou d'arène, c'est-à-dire que le musicien est au milieu. C'est une salle qu'on pourrait presque qualifier de démocratique. Tout le monde est à proximité du musicien, il n'y a pas ceux qui sont près, ceux qui sont loin. On est tous en train de partager la même chose et aussi... à envelopper l'artiste. Quelquefois, et c'est très souvent le cas avec Alexandre, quand même pour un récital de piano, il y a trop de demandes, on met du public sur la scène. Donc la frontière entre la scène et la salle est très différente ici.
Mais alors, normalement, le pianiste est toujours, le soliste, il est toujours de profil. Ouais. Et justement, pour éviter les regards, me semble-t-il, éviter les regards qui se poseraient sur lui.
C'est pas pour éviter les regards, c'est pour l'acoustique, parce que le piano, vous voyez, le piano est comme ça, vous êtes face au clavier, et le couvercle du piano s'ouvre, Donc tout le son qui monte, donc des cordes, se reflète dans l'intérieur du couvercle et va vers la droite. Il est projeté comme ça à l'horizontale.
Donc vers le public.
Voilà. Et c'est Dušek, ce pianiste improvisateur de l'époque de Chopin d'ailleurs,
qui était tchèque.
Monsieur Beauvisage, bravo. C'est le premier, justement parce qu'il avait un très beau nez, paraît-il, et un très beau profil. Au lieu d'être presque dos au public, il s'est petit à petit mis de profil pour attirer plus les femmes qui s'évanouissaient au premier rang. Et les autres pianistes ont suivi.
Mais là, justement, alors maintenant qu'il y a du public sur les côtés, du public derrière, vous n'avez plus cet effet...
Beau visage.
Non, l'effet pour que le son du piano parte vers le public.
Oui, mais alors c'est à l'acoustique de la salle de... alors là, voilà, ça nous échappe. C'est à l'acoustique de la salle de récupérer ce son pour bien le transmettre aux
Il
gens
paraît que l'acoustique ici est extraordinaire.
Alors regardez Frédéric, il y a en fait l'impression d'avoir deux salles en une. C'est-à-dire que le parterre, le premier balcon, le deuxième balcon sont presque suspendus. Ils sont très rapprochés du public et derrière... Il y a à peu près 10-15 mètres qui sont comme une deuxième une chambre d'écho qui enveloppe cette première salle. L'acousticien disait une bicameral flexible concert hall, c'est-à-dire deux chambres, un petit œuf dans un grand œuf. Et quand tu parles de récupérer le son et ensuite le répartir partout, c'est bien ça. C'est-à-dire que le rêve de l'architecte et de l'acousticien, c'était un son qui ne s'arrête jamais. Donc, au lieu d'aller buter contre un mur, il va... dans des orifices, dans des trous, dans cette chambre d'écho, et ensuite continue à circuler et se répartit partout.
Si on crie, ça donne quoi ici ?
Allez-y.
Ah ! Ah !
Vous avez des drôles de cris.
Bah, c'est exprès pour tester la.
C'est 4 secondes de réverbération, mais avec le public, ça devient 2 secondes et demie.
Ouais, moi, j'essaierai bien ton cri, parce que tu as un cri qui peut peut-être aller au-delà de 4 secondes.
C'est mieux.
On sent tout de suite le musicien et ce cri rauque dans un corps frêle, c'est quelque chose d'effrayant, non ?
On va aller même plus loin, on va écouter un extrait de votre nouvel album, Alexandre Tarot. On va voir ce que ça donne à la Philharmonie. Vous l'avez joué ici il y a peu de temps d'ailleurs, hein. Vous aviez une carte blanche au mois de novembre. On va écouter la sarabande du livre de pièces pour la guitare de Robert de Vizé.
Mais joué au piano.
Vous avez fait vous-même la transcription, je crois. On vous écoute.
Frédéric Taddeï se balade avec Alexandre Tarot sur Europe 1.
C'était un extrait de l'album Versailles, le nouvel album d'Alexandre Tarot. C'était la sarabande du livre de pièces pour la guitare de Robert de Vizé. On se retrouve dans un instant, toujours sur la scène de la Philharmonie. Nous sommes toujours sur la scène de la Philharmonie avec Emmanuel André et avec Alexandre Tarot, qui a pris une chaise, qui s'est assis. Vous êtes sur scène, il faut que vous soyez assis, vous, Alexandre.
Non, mais on est debout depuis plus d'une heure maintenant.
Alors, oh là là, pauvre petite chose.
Pauvre petite chose.
C'est là, on voit que c'est une star. Vous aurez un tourneur de page. Vous avez un tourneur de page, vous, vu que vous n'avez plus de mémoire.
Je n'ai plus de mémoire, et donc, oui, j'ai un tourneur de page à chaque concert.
C'est jamais le même.
C'est un... Oui, comme un... Un voisin de train ou d'avion, vous voyez, quelqu'un qui est là, qui ne doit pas vous gêner, qui ne doit pas gêner le public non plus. Et.
Qui doit savoir lire la musique.
Qui doit savoir lire la musique.
Pour tourner les pages au bon moment.
Voilà, c'est très difficile. C'est, j'allais dire un métier, c'est pas un métier, mais c'est un job. Très difficile.
C'est Emmanuel qui s'occupe de vous trouver un tourneur
quand
de page.
Quand c'est ici, oui. Enfin, à Paris, j'ai mes tourneurs de page avec une liste dans mon téléphone. Avec
Et quand c'est en Chine,
oui, oui. Ça doit être... Et quand c'est en Chine aussi, au Japon, j'ai mes tourneurs de page. Parce qu'un bon tourneur de page, c'est précieux. Il faut le garder. Il faut garder tout de suite son numéro de téléphone. Et le...
Mais ouais. Tu racontes dans ton livre que tu as un tourneur par ville.
Oui, oui, j'ai des tourneurs. Pas dans toutes les villes, malheureusement.
T'es comme les marins.
Et puis. Mais c'est pas pour la même chose, pas pour la même.
Alors, vous changez de tourneur de page et vous changez aussi de piano.
Puisque... Le piano, oui. Ouais.
Être pianiste, chaque concert, être... un nouveau piano, pas forcément de la même marque.
Ouais.
Et...
Ouais.
Pourtant,
ouais.
Tous les pianos sont différents.
Chaque piano est différent.
Donc, vous redémarrez pas à zéro, mais presque.
Ouais. Et c'est pour ça que c'est bien de répéter quand on arrive dans une salle de concert, répéter si possible le matin pour avoir encore du temps, parler, discuter avec l'accordeur. Celui qui prépare
avec le piano.
Mais discuter avec le piano, bien sûr. Comme, admettons qu'on soit deux acteurs et on va jouer une pièce à deux ce soir et on n'a que quelques heures. Il faut s'entendre, il faut s'écouter. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire des simagrées. Il faut y aller. Et donc, voilà, c'est ce qui se passe à chaque répétition.
Et là aussi, c'est Emmanuel qui choisit le piano.
Non, à Paris, je le choisis. Je le choisis, mais dans l'espace de la Philharmonie, je peux prendre un piano en dehors de la Philharmonie que je fais venir, mais il y a ici, je crois, 6 pianos de concert.
On a 6 pianos de concert qui ont chacun leur personnalité, donc tu en connais certains, mais si tu veux changer, on en installe 2 ou 3. Mais généralement, tu as tes habitudes, tu aimes bien aussi retrouver un piano s'il t'a plu la fois précédente. Il y a le piano, il y a aussi l'emplacement, parce que d'un pianiste à l'autre, on mémorise l'emplacement des pianos. Ça joue quelquefois à quelques centimètres. Exactement, sur scène, je ne vais pas citer le nom de ce pianiste qui va chercher pendant une demi-heure l'emplacement du piano avant même de poser ses doigts dessus.
Sans savoir ce que ça donne, c'est ça qui est intéressant, parce que nous, on est là sur scène, mais ce son-là, il nous échappe et on ne sait pas ce que les gens ressentent, ce que les gens reçoivent. C'est quand même fou. Puis, un piano change. Donc, certains numéros...
Selon les heures de la journée, selon l'emplacement...
Je vous dis, tiens, Emmanuel, je veux jouer tel numéro que j'avais joué il y a 2 ans. Pour ce répertoire, ça va être magnifique. Et puis j'arrive et le piano a changé parce qu'il a été, touché par une multitude d'autres pianistes qui jouent de manière différente, en tout cas qui ont pu le...
Puisque vous-même n'avez pas de piano, donc changer de partenaire à chaque fois.
C'est assez dangereux. Mais il faut du danger à chaque concert, sinon ça, on ronronne.
Il a d'autres rituels, Alexandre Tarot, quand il est en concert, à la Philharmonie, mais ses petites exigences.
Non, tu ne fais pas partie des capricieux, je dirais. Certains vraiment transmettent des caprices à cause de leur stress. Je ne pense pas que... Moi, ce que je sens quand tu arrives, c'est surtout l'énergie. Tu cherches à trouver... l'énergie en place, le bon moment, la réaction chimique qui va pouvoir se produire, c'est ce que je sens de l'extérieur. Après, je ne sais pas comment toi tu vis les choses chez nous, mais on cherche à te laisser libre d'entrer en contact.
Il faut qu'à 20h ou à 20h30, au moment de l'entrée en scène, tout soit là. Après, on peut rater un concert, mais il faut créer tout ce qu'il faut pour être inspiré, pour partager. C'est vraiment, le concert, c'est un moment de partage. Pour être un partageur, il faut être un médium. Pour être un médium, il faut être disponible. Il faut être un...
Au fond, c'est là où vous vivez vraiment, non?
C'est là où je vis vraiment. Alors la vie à côté, c'est bien fade.
Dans les hôtels comme celui qu'on a visité avant, dans les rues,
c'est déjà le concert.
Même
déjà
devant
le
les tombes, vous n'êtes pas encore tout à fait vivant. C'est sur scène que vous êtes vivant.
Oui, mais, toutes ces tombes, et je ne visite pas les tombes tous les jours, mais les hôtels, les balades, tout ce qu'on a fait là depuis une heure et demie, c'est déjà le concert. le concert, il ne débute pas à 20h, il débute bien avant, voire des semaines ou des années avant. Mais
et après le concert, est-ce que vous vous refaites le concert?
Non,
dans votre
parce
tête
qu'on est déjà dans le concert suivant.
Ah oui.
On sort de scène, on est déjà dans le concert suivant. Ce qui donne une vie sur un fil tendu, une tension permanente, qui peut être dangereuse elle aussi. Mais c'est aussi savoureux. Savoureux de sortir de scène et de se dire, bah tiens, il y avait ça qui n'allait pas, ça, pour le prochain concert, demain ou après-demain ou la semaine prochaine, il va falloir faire. Et on travaille déjà.
Eh bien, merci Alexandre Tarot de nous avoir emmené en balade avec vous. Je rappelle que votre nouvel album Versailles, consacré à la musique française sous Louis XIV, sous Louis XV, sous Louis XVI, du temps où les rois habitaient Versailles, est désormais dans les bacs. Vous allez être en concert en France, j'entends, parce qu'ailleurs sûrement, mais en France bientôt.
À la Philharmonie de Paris, justement, le 11 janvier, avec Jean-Guyenne Queyras, un fabuleux violoncelliste.
Avec qui vous venez de sortir un album.
Oh, oui.
Consacré à Brahms.
Non, pas consacré à Brahms, mais à des bis. Et ça s'appelle Complice. C'est tout un album.
Les bis, ce sont les morceaux qu'on joue après les acclamations, à la fin du concert.
Voilà, une sorte de jeu de ping-pong avec le public, de jeu de clin d'œil aussi.
Eh bien, merci Emmanuel André de nous avoir accueillis dans cette salle magnifique. Je remercie également le magasin Harmonia Mundi que nous avons traversé tout à l'heure et qui se trouve également dans la Cité de la Musique. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne année et on se retrouve dimanche prochain à 11h pour une autre balade.